le président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Pas de rougis, les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde, j'ai le grand honneur, et je pèse mes mots, de recevoir une femme extrêmement dangereuse qui a changé le cours de l'histoire en France et en Suisse et dans le monde. Stéphanie Gibaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous avais reçu il y a 2 ans pour parler du procès UBS. À l'époque, c'était le premier procès. Pour la première fois, UBS était en procès. Donc, on avait parlé de votre livre, La traque des lanceurs d'alerte, qui est aux éditions Milo. Mais là, aujourd'hui, je vous reçois parce que s'il n'y avait pas eu le Covid-19, vous, au mois de juin, on aurait dû assister au procès en appel d'UBS. Et donc, le procès en appel d'UBS aura lieu du 8 au 24 mars 2021. Mais j'aimerais que pour mes auditeurs, vous nous présentiez UBS, votre ancien employeur. L'Union des banques suisses, pour faire clair.
Alors, pour faire clair, déjà, merci de votre invitation. Je suis très touchée, surtout des mots que vous venez de prononcer, parce qu'effectivement, c'est une histoire très difficile et très douloureuse à titre personnel. Et en même temps, c'est effectivement peut-être l'affaire qui va faire trembler la finance internationale grâce à la voix de la justice française. Nous en saurons un peu plus donc au mois de mars 2021, comme vous venez de l'annoncer. Donc la banque UBS, la banque suisse UBS, l'ancienne Union des banques suisses, est une des banques les plus puissantes au monde, même si en France son nom n'est pas connu du grand public. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est essentiellement une banque de gestion de fortune, donc l'entité pour laquelle j'ai travaillé. Une entité aussi, ce qui s'appelle Asset Management, qui avait défrayé la chronique il y a 12 ans, puisqu'elle était détentrice du fonds Madoff, dépositaire pardon, du fonds Madoff au Luxembourg, et la banque d'investissement, donc la banque avec les traders, qui avait été la banque non américaine la plus impactée par la crise des subprimes. Aussi,
au point que les Suisses ont dû la renflouer.
Absolument.
Et ça fait un débat en Suisse à l'époque.
Absolument. C'est-à-dire qu'en 2008, UBS est un paquebot qui prend trois icebergs, c'est-à-dire les trois icebergs dont je viens de parler, avec cette histoire d'évasion fiscale dans la banque de gestion de fortune pour laquelle je travaillais, UBS qui se retrouve dans la tourmente de Washington. Donc cette banque est une des banques les plus puissantes au monde, avec plus de 100 000 collaborateurs, s'est retrouvée à être à partir de 2007-2008, un peu comme le Titanic, à prendre l'autre partout, à tel point que tout le monde se demandait si elle allait survivre, et elle a pu survivre grâce à la contribution finalement des contribuables suisses, qui on peut penser un petit peu, puisqu'UBS ne paye plus d'impôts en Suisse depuis qu'elle paye toutes ses amendes de par le monde.
Tout à fait.
Et puis, comme vous le soulignez, UBS est une banque qui négocie dans chaque pays des accords et des transactions. Elle l'a fait en Allemagne, où elle a payé 300 millions d'euros pour un problème d'évasion fiscale. Elle l'a fait ailleurs dans le monde. Et ce procès en France est important. Pourquoi ? Parce que c'est une première au monde, et surtout parce que la justice française s'est positionnée avec un montant extraordinairement élevé.
Donnez le montant pour donner les chiffres à mes auditeurs, ça va donner le vertige.
Oui, alors pendant la procédure, UBS avait dû verser un acompte de 1,1 milliard d'euros. Mmh. Et l'année dernière, donc, la justice française a prononcé cette amende record de 4,5 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,5 plus 800 millions de dommages et intérêts pour l'État français.
Voilà, tout à fait.
Mais en comparaison, parce que on ne peut comparer qu'avec ce qui est comparable, pourquoi est-ce qu'UBS est allé au procès ? C'est quand il y a eu la demande, il y a eu des négociations avant, et la France a dit « mais nous ne baisserons pas le montant en dessous de 1,1 milliard d'euros ». Et UBS a dit « mais pas question, puisque le tarif, c'est 300 millions d'euros ». On a payé 300 millions d'euros en Allemagne.
Il n'y a pas de raison qu'en France, on paye plus.
Voilà, mais si on parle d'une autre banque qui est HSBC, HSBC a effectivement payé 300 millions à la France. Donc en gros, il y a un prix de marché, c'est comme ça, on refuse d'aller au procès. De toute façon, on ne sera jamais condamné puisqu'on n'a rien fait. Tout ça, ce sont des inepties, c'est sorti du chapeau, il n'y a aucune preuve, etc. Et donc immédiatement après que cette sanction eut été prononcée, UBS a fait appel et le procès aurait dû avoir lieu en ce moment-là, ces jours-ci, en juin. Et avec ce Covid, c'est reporté en mars l'année prochaine.
Alors, on va faire un tour d'horizon. Je me suis amusée à noter le plus possible les amendes. 780 millions de dollars en 2009. 300 millions, effectivement, vous l'avez en 2014 en Allemagne. 83 millions en 2019 à Mannheim, en Allemagne toujours. L'arrangement n'a pas été possible avec la France. Porto Rico, 34 millions. Et actuellement, on est en train d'attendre la décision de l'investigation de Michel Claise, le juge en Belgique, le juge d'instruction belge.
Oui, parce qu'effectivement, la Belgique a ouvert une
en
investigation
2016, sur les 2016 pour 10 16. Ans plus tôt, c'est-à-dire pour les faits qui remontent à 2006. Exactement. Et c'est Michel Claise, le juge d'instruction un des plus performants sur le plan financier, qui s'occupe de ce dossier. Donc UBS a des soucis à se faire, en Belgique aussi. Donc voilà. Alors donc effectivement, l'amende, Guillaume Daïef, la caution, avait été validée par la Cour de cassation le 17 décembre 2014, parce qu'ils sont allés en cassation, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce montant. Et on arrive au procès, si j'ose dire, avec une brochette d'avocats prestigieux, qui ont bonne réputation.
Bien évidemment.
Dont Maître Jean Veil, qui est le fils de Simone, qu'on ne présente plus. Et on tombe sur une plaidoirie à tomber par terre. Je veux dire, ils réfutent en bloc tout. Je vais vous laisser continuer peut-être. Ils ont tout réfuté en bloc. Les accusations du parquet et des juges d'instruction. Et surtout, ils vous ont traité plus bas que terre, les lanceurs d'alerte dans ce dossier.
C'est de la négation. Rien n'a jamais existé. Rien, pour la banque, tout cela n'est que de l'affabulation. Tout cela n'est que de l'invention. Et UBS joue un peu à Calimero en disant « nous sommes les victimes de toute la place financière réunie ». En fait, nous avons été choisis pour être la victime.
C'est expiatoire.
C'est, voilà, oui, et c'est ils intéressant ont même dit, ils comme ont défense.
Même, voilà, ils ont même dit qu'il y avait de la xénophobie, c'est-à-dire qu'on s'acharne contre les Suisses parce qu'ils sont Suisses. C'est de la démagogie. Et vous, ils vous ont traité les lanceurs d'alerte, ils les ont traités de repris de justice recyclés. Ça, vraiment, ça nous a fait mal, parce qu'on vous soutient. Et j'aimerais que vous expliquiez en quoi, pour la première fois, c'est votre rôle est primordial. Parce que sans vous, il n'y aurait pas de procès UBS, les lanceurs d'alerte. Et vous en particulier, Stéphanie. Donc j'aimerais que vous rappeliez votre rôle au sein de la banque. Qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce qui vous a amené du jour au lendemain, alors que vous aviez une vie « normale », entre guillemets, à devenir l'héroïne que vous êtes à l'heure actuelle, à nos yeux. Et aux yeux, je suis sûre, de mes auditeurs, une fois que vous aurez fini cette émission.
La filiale française d'UBS, donc UBS France, a ouvert à Paris il y a 20 ans, en 1999. C'est une question stratégique, puisque en Italie, Berlusconi avait décidé le Scudetto Fiscale. Mm-hmm. Et donc, les Suisses, qui ont toujours en matière financière quelques trains d'avance, se sont dit, mais tiens, la France et l'Espagne devraient suivre l'exemple italien. Donc, nous allons ouvrir des filiales, ce qui s'appelle onshore, donc à Paris, à Madrid de l'autre, UBS France, UBS Espagne, parce que quand les dirigeants de ces pays vont faire comme l'Italie,
déréglementer la finance,
ne pas pénaliser l'argent offshore qui était sur des comptes, autant que ce soit UBS qui récupère, plutôt que des banques françaises en France et plutôt que des banques espagnoles en Espagne. Donc en fait, c'est pour ça qu'UBS a été ouverte de manière
en fanfare,
exactement, avec des invités prestigieux à l'événement d'ouverture à l'époque, etc., etc. L'histoire, c'est pas écrite comme ça du tout. Mmh. Mais donc moi, pendant 10 ans, mon métier a été d'organiser des événements qu'on appelle des événements VIP, des plateformes événementielles pour ses clients qui sont donc les contribuables, en tout cas les Français les plus fortunés, pour leur offrir des services bancaires. Mon métier était d'être ce qui était appelé pompeusement en interne ambassadrice de la marque, c'est-à-dire que j'étais responsable des relations publiques et mon métier était d'organiser des événements où on pouvait offrir à ces gens qui peuvent par définition tous acheter de l'émotion. Alors on m'a fait souvent parler de ça, mais qu'est-ce que c'est l'émotion? C'est, je me souviens par exemple, un concert privé au Théâtre des Champs-Élysées avec Rostropovitch. Le dîner, après, était à la Maison-Blanche avec Rostropovitch. Voilà, des choses qui sont assez exceptionnelles.
Avec des invités triés sur le volet.
Alors, des invités triés sur le volet, c'est-à-dire que oui, font partie de ces plus grandes familles françaises. Donc moi, mon métier, en gros, s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est un métier de représentation dans toutes les entreprises du CAC 40 qui ne sont pas des banques. Il y a des femmes, c'est essentiellement un métier féminin et des hommes parfois, mais ce sont des métiers qui sont des métiers de relationnel, de faire en sorte que le client ait un service parfait
en matière de relationnel, de communication, parce que bah, ça lui donne, si vous voulez, la carte de visite des produits financiers, des services financiers. S'il est bien servi et s'il est chouchouté, il va penser que, par définition...
Il signera plus facilement après.
Voilà, il va penser aussi que les services de la banque sont à cette hauteur-là. N'oubliez pas qu'on est quand même sur un métier qui est ultra concurrentiel.
Oui.
Que les gens fortunés, contrairement à la classe moyenne, ont plusieurs banques pour toujours séparer leur patrimoine et ne pas savoir quel est leur patrimoine total.
Oui.
Donc moi, pendant 10 ans, je cours la France, puisqu'après avoir ouvert ce bureau à Paris, ont été ouverts des bureaux de Lyon à Bordeaux, à Marseille, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, pour mailler le territoire et pour aller donc... chercher ses fortunes françaises. Et arrive l'affaire Birkenfeld aux États-Unis. L'affaire Birkenfeld, c'est quoi ? C'est ce chargé d'affaires américain, Bradley Birkenfeld, qui s'en va dénoncer aux autorités américaines que son métier est d'aider ses clients, les plus riches clients américains, à frauder le fisc. Et que cette histoire, qui n'a a priori rien à voir avec la mienne, c'est ce qui crée un séisme dans la banque,
oui.
Puisque UBS a fait la même chose aux États-Unis. Ça, c'est très intéressant de parler de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que devant le Sénat américain, vous savez que les dirigeants d'UBS ont été obligés de s'expliquer.
Tout à fait. Les auditions étaient publiques.
Voilà.
Et c'était le sénateur Levin.
Levin, absolument. Très, qui fait un travail remarquable.
Ouais. Oui, tout à fait.
Où le patron d'UBS s'est pris un peu les pieds dans le tapis en expliquant comme ici que rien n'avait jamais existé, qu'on en voulait à la banque, etc. Mais sauf que Big Brother s'est un petit peu fâché et que du coup, ils ont été obligés d'avouer que... ces aides à l'évasion fiscale avaient existé. L'amende a été une amende d'un peu moins d'un milliard de dollars, c'était 800 millions plus quelques frais. Et UBS a promis de ne plus jamais
recommencer
ni aux États-Unis ni ailleurs.
Alors, Stéphanie, nous reprenons à propos de M. Birkenfeld. Il a fait de la prison plus d'un an, si mes souvenirs sont exacts, et il a reçu des millions. C'est-à-dire, c'était 10% du montant de l'argent qu'il a aidé à récupérer aux États-Unis. C'est bien ça ?
Alors ça s'est passé, effectivement, il y a plus de 10 ans. La condamnation, c'était 40 mois de prison, mais il n'en a fait que 30, parce qu'il se comportait, a priori,
comme un détenu modèle.
Et en sortant de prison, il a eu un chèque qui était le premier chèque qui a été fait à un Américain lanceur d'alerte de 104 millions de dollars. Et on m'a dit que depuis, il touchait en gros entre 5 et 20 millions de dollars par an pendant pratiquement 10 ans, c'est-à-dire que le temps que l'argent rentre au fur et à mesure dans les caisses de l'IRS,
voilà,
du Bercy américain.
Voilà. Donc, vous, revenons à vous. Donc, vous, pendant 10 ans, vous animez les événements, il y a l'affaire Birkenfeld, et vous, quand est-ce que ça commence, vos problèmes, si j'ose dire ?
Bon, on s'est rendu compte avec cette affaire Birkenfeld qu'il y avait un séisme dans la banque, surtout que tout à l'heure je vous expliquais qu'en parallèle il y avait cette histoire de crise des subprimes aux États-Unis et QBS, la banque d'investissement, a été la plus impactée en tant que banque non américaine, que de l'autre côté il y avait la banque d'asset management qui prenait l'eau avec l'histoire de Madoff, hein, dépositaire du fonds Madoff. Et donc cette histoire Birkenfeld, c'est le troisième coup sur UBS qui a quasiment failli être fatal, puisqu'aux États-Unis la banque a failli perdre sa licence.
Tout à fait.
C'est bien pour ça qu'ils ont essayé de rétro-pédaler et de faire comme ils pouvaient et de négocier en promettant que...
Ils ne recommenceraient pas.
Juré cracher. oui, je crois même qu'ils ont juré au Sénat. Enfin, vous savez, aux États-Unis, c'est très procédural, etc. Donc, à ce moment-là, moi, on me recrute une supérieure hiérarchique, alors que depuis 10 ans, je gère mon département avec une assistante, avec une stagiaire, avec une collègue. Enfin, il n'y a pas de problème de structuration. Moi, comme je suis J'étais une jeune femme bien élevée. Voilà, moi, je me suis dit, bah, c'est très bien, c'est quelqu'un qui va tirer l'équipe vers le haut, etc. Et puis, en fait, rétrospectivement, c'est très intéressant parce qu'on voit quelle a été la stratégie de la banque, c'est-à-dire qu'une perquisition a eu lieu dans le bureau du directeur général, Patrick de Fayette, au mois de juin 2008. Mmh. Et suite à cette perquisition, cette supérieure hiérarchique est rentrée comme une folle dans mon bureau pour me dire d'effacer de mon disque dur tous les fichiers qui contenaient les noms des clients que j'avais invité à ces événements. Et que moi, je ne comprenais pas bien de quoi retourner. Parce que, déjà, j'étais occupée. Deuxièmement, j'étais terrorisée par une perquisition. Parce qu'une perquisition dans le bureau du directeur général d'une banque, c'est quand même qu'il se passe quelque chose...
De grave,
oui. Enfin, surtout qu'on est à l'époque. Remettez-vous, en 2008, il y a l'affaire Société Générale, même si elle n'a rien à voir avec mon affaire, l'affaire Kerviel, qui quand même faisait, une des médias français pratiquement non-stop. Il y avait l'affaire HSBC, enfin, il y avait dans tous les coins. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette perquisition? Et on m'a dit, c'est pas votre problème, faites ce que je vous demande de faire. Donc, moi, j'étais occupée, j'ai pas fait attention. Et puis, dans les jours et les semaines qui ont suivi, ma supérieure hiérarchique m'a demandé si j'avais bien effectué cet ordre, donc de détruire ces fichiers qui étaient des documents où j'avais le nom des clients, de leurs accompagnants et le nom du banquier, puisqu'en gestion de fortune, on travaille sur du long terme, on travaille sur la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre. Donc la confiance est primordiale. On doit avoir confiance en son banquier et on doit avoir confiance dans la marque, donc dans la banque. Et donc moi, j'avais tous ces fichiers. J'organisais une centaine d'événements par an, donc je devais avoir pratiquement 1000 fichiers Excel. Avec le nom des banquiers, qui étaient soit en France, effectivement, de Strasbourg à Marseille, de Lille à Bordeaux ou Paris, et où à Genève, à Lausanne, à Bâle et à Zurich.
C'est ça qui devient intéressant dans votre histoire.
Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand on se place dans ce contexte, il y a 12 ans de terreur absolue de qu'est-ce que c'est que cette perquisition, d'une supérieure hiérarchique qui est fraîchement recrutée, alors que ça fait 10 ans que moi, je mène ma barque tranquillement, et avec qui, humainement parlant, ça ne se passe pas très bien, que moi, je suis quelqu'un d'assez affectif, qui me remet toujours en question, je me suis dit, mais ils m'en veulent, ils veulent se débarrasser de moi, j'ai fait quelque chose qui ne va pas, je ne suis plus à la hauteur de mon poste. Moi, je me souviens, j'ai des enfants... Mon dernier fils avait 4 ou 5 ans à l'époque et je rentrais tous les soirs en larmes en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, je dois plus être compétente, enfin, ça va pas, voilà. Et en fait, petit à petit, je tire un fil et je comprends, parce qu'il y a des banquiers de la banque aussi qui viennent m'expliquer que mon métier, donc que je ne pensais qu'être un métier de représentation, de relations publiques, permettait ce qui s'appelle, en termes et en jargon bancaire, le démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français. Et moi,
et
je leur ai dit, mais de quoi...
Il y a les carnets de lait, ce qu'on appelle les carnets de lait.
C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent quelques mois, parce que je pense que ça a pris 6 mois, à ce qu'ils m'expliquent que le démarchage est interdit sur notre territoire, puisque ces gens-là n'ont pas de carte de démarchage, que c'est obligatoire. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que la banque UBS AG, donc la banque en Suisse, c'est elle qui paye les 4, enfin, qui a payé ces 4,5 milliards d'euros à la justice française. Cette banque suisse, la banque,
La maison mère.
La maison mère. Merci, je trouvais pas le mémo. La maison mère n'a pas de licence pour exercer en France. Et donc, en fait, moi, la première chose que je comprends, c'est que je travaille avec dévouement et avec passion, un métier que j'adore, depuis 10 ans pour une entreprise qui, finalement, s'est servie de moi.
Tout à fait.
Finalement, m'a trahi. Et donc, à partir du moment où je comprends ça...
Le plafond vous tombe sur la tête.
Oui, parce que tant qu'on ne sait pas, par définition, on ne peut pas dénoncer. Mais moi, la première question que je me suis posée, parce que j'étais une maman qui élevait mes 2 enfants seule, je me suis dit, mais finalement, maintenant que je sais, quelle est ma responsabilité? Et là, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très peur. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, justement, élever des enfants avec des valeurs et de l'autre côté, fermer les yeux, se taire, donc être complice. Sauf que moi, en vous annonçant ça 12 ans après, ça fait peut-être rire certains de vos auditeurs, parce que tout le monde va se dire, oui, enfin on sait quand même qu'en France, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et les événements de ces dernières années nous prouvent qu'effectivement, je devais vraiment être naïve il y a 12 ans. Cela étant, moi, je fais ce que... Je n'ai brisé finalement aucune loi, c'est-à-dire que j'ai respecté le droit du travail, le droit social, le droit pénal, le droit administratif.
L'éthique professionnelle.
Je n'ai pas détruit ces données parce que je n'en avais pas d'instruction écrite. Donc, je ne me suis pas rendu complice ni coupable de quelque chose dont la banque aurait pu se défausser en disant « Regardez, c'est elle qui a voulu sciemment détruire son outil de travail. » Je n'ai pas violé le secret bancaire. Je n'ai pas violé le secret des affaires. Je n'ai pas volé de documents. Et j'ai respecté surtout ce que m'a demandé l'inspection du travail. Parce qu'au-delà d'avoir une casquette marketing et communication, j'étais aussi une salariée élue du personnel. Mmh. Et qu'à ce titre, vous savez que les élus du personnel sont élus pour aller défendre l'intérêt des collaborateurs, mais aussi en général l'intérêt de l'entreprise, demander des comptes, de poser des questions, et pas que la question du montant des tickets restaurants ou de où aura lieu la fête de Noël et avec quel budget. Il y a quand même des questions cruciales, justement, qui concernent l'éthique. Voilà. L'éthique en entreprise, l'éthique que doit une entreprise, une entité légale par rapport à ses collaborateurs, mais aussi par rapport à ses clients. Moi, je m'occupais de la réputation d'UBS, je m'occupais de la réputation de cette marque. Regardez ce qu'est la réputation d'UBS aujourd'hui avec ce dossier de 4,5 milliards en justice qui a fait le tour du monde.
Il n'y a plus de réputation à ce niveau-là. Ou alors, c'est une réputation sulfureuse. C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui aurait envie de travailler chez UBS aujourd'hui avec une banque dont on connaît les pratiques aujourd'hui, qu'elle soit au niveau management, puisque moi, j'ai été harcelée pendant 3 ans et demi, j'en ai fait une dépression, j'ai été licenciée et forcément UBS a sali mon image dans les médias en disant que j'étais quelqu'un qui inventait une histoire, que j'étais pas banquier, que je n'y connaissais rien, que je voulais gagner beaucoup d'argent. Enfin, si vous voulez, des choses complètement délirantes. Sauf que pour eux, ça reste de la communication. Mmh. Et pour vous, votre carrière s'arrête, tout le monde vous tourne le dos, vous êtes une espèce de mouton noir, de mouton à 5 pattes, et que là, votre vie s'effondre parce que vous avez dit la vérité, parce que vous avez essayé de défendre justement à la fois les collaborateurs, parce qu'il y a eu des licenciements en masse, quand même important de le savoir. J'ai des collègues qui étaient aussi honnêtes et aussi intègres que moi, qui eux, ont été mis en garde à vue, donc ils sont partis le matin à 6h avec les menottes devant leurs enfants et leurs conjoints ou leur épouse en pyjama, la maison complètement
retournée,
etc., etc. Donc ce sont des traumatismes pour des collaborateurs qui sont très graves.
Oui.
Derrière, c'est quand même beaucoup de gens qui perdent de l'argent aussi, parce que c'est une banque qui, du coup, est obligée de licencier avec perte et fracas. Et que derrière, tout à l'heure, on parlait des contribuables suisses, derrière, il y a des ardoises à payer. Et qu'étonnamment, les banques, le système bancaire, ça fait 12 ans qu'on le répète, est comme un poisson qui file entre les mains, comme une anguille, c'est-à-dire que ayant toujours 3 ou 4 trains d'avance, ayant une espèce de communication comme ça qui fait peur à tout le monde, en étant plus fort que les pays, plus puissant que les pays,
exact,
et capable de dicter
sa loi.
Et c'est vrai que ça, on a l'impression d'avoir affaire à un État dans l'État.
Waouh !
Non, mais c'est d'une violence inouïe. Oui. Donc moi, il y a 10-12 ans maintenant, parce que c'était en 2008, comme j'étais une élue du personnel, après avoir posé ces questions en réunion, après avoir rencontré tous les dirigeants de l'entreprise, que ce soit la DRH Béatrice Laurin-Guérin, qui est d'ailleurs toujours en poste à Paris, boulevard Haussmann, que ce soit le président de la banque, que ce soit le directeur général, le directeur juridique, tout le monde me donne la même réponse, que je suis fatiguée, que je dois prendre des vacances, que je ne suis pas banquier, que je ne comprends rien à la finance, et puis que tout le monde se plaint un petit peu de mon travail, que je ne suis plus très efficace, etc. Donc, au-delà du fait que j'en fasse une dépression tellement ça a été violent, moi qui étais quelqu'un de perfectionniste et de passionné, la seule chose que j'ai su faire, c'est d'aller à l'inspection du travail, où j'ai raconté tout ce que je viens de vous dire pendant presque 6 mois. Et au bout des 6 mois, cette inspectrice du travail me dit « Madame Gibault, ce que vous me racontez depuis des mois est tellement grave, je vous demande de porter plainte contre votre employeur. » Mais je lui dis « Mais attendez, vous vous rendez compte que moi je suis une maman qui élève seule mes enfants, qui avait à l'époque 4 ans ou 5 ans et 13 ans. Mon seul revenu, c'est mon travail, c'est mon emploi. » C'est-à-dire comme pratiquement 100% de la classe moyenne et des gens qui travaillent. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et la réponse en 2008 a été « Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger. » Je dépose plainte.
Alors,
en 2009.
On fait une pause. « Nous sommes là pour vous protéger. » Et vous l'avez cru ?
Bah bien évidemment, puisqu'à l'époque, je pensais que nous étions dans un état de droit et je pensais qu'effectivement, dire la vérité en France, le pays des droits de l'homme, ou qui se dit être le pays des droits de l'homme, était bien évidemment quelque chose qui n'allait pas me porter préjudice et qui allait au contraire permettre de parler de cette finance dérégulée, de permettre d'avancer dans cette lutte contre les paradis fiscaux dont nos dirigeants politiques qui se succèdent ne font que dire qu'ils luttent contre elles.
Tout à fait. Donc vous portez plainte et qu'est-ce qui se passe après ?
Je porte plainte et au même moment, il y a un plan social dans la banque de 100 personnes, dont je fais partie. Et l'inspectrice du travail va valider le licenciement de mes 99 collègues, sans sourciller, et va me laisser, moi, va refuser mon licenciement. Donc en fait, elle va me laisser chez un employeur qui fraude, dont j'ai dénoncé la fraude. C'est un peu comme s'il y avait un incendie dans cette pièce, que les pompiers viennent sauver tout le monde, sauf celui qui a tiré le signal incendie. C'est-à-dire que c'est quand même, enfin, vous voyez, rétrospectivement, le fait d'en parler, même 12 ans après, j'en ai le sang qui se glace, parce que c'est d'une violence inouïe. Donc pendant 2 ans, je suis dans une banque qui m'a enlevé mon métier, qui m'a rétrogradée, puisque donc, je suis passée chef des hôtesses, à vérifier si les plantes vertes et les fleurs sont bien arrosées dans les bureaux de réception. À l'étage de réception des clients, moi qui sortais, qui avait un métier qui était quand même festif, de représentation, de relations publiques, où je ne vois plus personne. Donc j'enchaîne arrêt maladie sur arrêt maladie. Moi qui travaillais avant le soir, les week-ends, les vacances, les congés maternité, je me retrouve comme une espèce de loque coincée. Parce que souvent on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas cherché du boulot ailleurs ? Mais parce que, un, j'étais au fond du trou. Deux, j'étais en état de terreur. Trois, j'élevais 2 enfants toute seule. Et que quatre, je n'étais même pratiquement plus capable de me lever le matin. J'étais terrorisée d'aller chez cet employeur tout le temps. Et j'avais l'inspection du travail qui me disait, madame Gibault, prenez vos arrêts maladie. Mettez-vous en arrêt. C'est pas un problème. C'est quand même très bizarre, cette culture française. C'est là où on se dit, mais finalement, on privilégie les gens qui ne vont pas bien, à les laisser là où ils sont. On se demande pourquoi on est le pays qui... On fait une parenthèse, mais on peut se demander pourquoi on est le pays qui a le droit du travail le plus protecteur et en même temps le pays qui consomme le plus de d'antidépresseurs. Exactement, c'est complètement fou. Et donc moi, je me suis retrouvée dans cette banque qui fraude, dont je dénonce la fraude, avec tous les collaborateurs montés contre moi. La direction, je ne vous dis pas. C'est tout si je ne vomissais pas tous les matins avant d'y aller. Et puis un jour... Alors que je devais aller à Roland-Garros, donc 2 ans plus tard, en mai 2011, je reçois un appel masqué sur mon numéro de portable d'une dame. Et au bout de quelques phrases, je comprends qu'elle travaille pour Bercy, pour le ministère des Finances. Et elle m'explique qu'elle veut me voir. Moi, je lui explique que je travaille pour la quinzaine à Roland-Garros, que jour férié, samedi, dimanche compris, j'y suis. Et cette femme me dit « Non, non, je vais vous voir immédiatement, dès que vous sortez. » Donc elle me donne rendez-vous sur les Champs-Élysées, devant le magasin Vuitton, qui fait l'angle. Et je lui dis « Mais madame, qui êtes-vous et comment est-ce que vous allez me reconnaître ?» Et là, j'ai une réponse qui m'a sidérée. Nous savons qui vous êtes, nous avons beaucoup de photos de vous. » Donc je retrouve cette dame sur les Champs-Élysées, qui effectivement me reconnaît, elle traverse la rue dès que j'arrive, elle vient me chercher, elle me dit on va retraverser l'avenue de l'autre côté, qui m'emmène au sous-sol de la FNAC, pour pas citer, il faut pas citer de marque, mais comme on a cité, Vuitton, voilà, même ça n'a rien à voir, mais en tout cas, je peux pas l'inventer, c'est ce magasin, au sous-sol, et là j'ai un truc qui me dit, mais... Qui me dit que cette femme est qui elle est ? Est-ce que je ne vais pas disparaître dans un baril d'acide au fin fond de ce magasin ? Imaginez l'état de terreur dans lequel j'étais. En plus, j'étais en état de faiblesse, donc en dépression, avec une banque sur le dos qui surveillait tout ce que je faisais. Je ne pouvais pas aller au restaurant sans qu'il y ait quelqu'un tout seul à la table à côté. Je ne pouvais plus recevoir les appels téléphoniques ni les SMS de mon grand-fils à l'époque. Il avait 13 ou 14 ans et qui m'envoyait un texto en sortant de l'école, comme tous les enfants. Il ne recevait pas mes appels non plus. Les mails à la maison arrivaient, ils étaient soit déjà lus, soit dupliqués 25 fois. Enfin, des trucs complètement délirants. Donc, j'étais terrorisée. Et cette femme me dit, donc au fond du magasin La Fnac, nous allons être rejoints par un de mes collègues. Ils m'ont effectivement sorti leur insigne avec drapeau français, République française, égalité, liberté, égalité, fraternité. et me disent « Madame Gibault, nous savons que chez UBS, la fraude continue et nous allons vous suivre pendant 15 jours à Roland-Garros. » Et moi, je leur réponds « Mais non, non, mais pas du tout. » Je raconte tout ce que je viens de vous dire. On m'a demandé de détruire des données. Je n'ai pas voulu le faire. J'ai porté plainte contre la banque. Et depuis 2009, donc depuis presque 2 ans, je ne vois plus mes collègues suisses puisqu'on a interdiction d'avoir contact avec eux. C'est un peu comme si une muraille de Chine qui s'était montée entre la France et la Suisse. Vous faites erreur. Et ils me disent, mais pas du tout, nous savons que la fraude continue. Donc en fait, ils me suivent pendant 15 jours à Roland-Garros, ou à 3 reprises. Effectivement, on a bien confirmation que mes collègues de Lausanne et autres sont bien présents à Roland-Garros avec des clients français. Enfin bon, il y a 3-4 événements qui montrent que j'ai raison. Mmh. Et puis, pendant un an, donc vous voyez, on est en mai 2011, donc jusqu'à l'été 2012, ils vont me demander de leur donner des informations confidentielles appartenant au serveur d'UBS. Et je me rends régulièrement à leur bureau. À l'époque, ils étaient à Vincennes. Et quand vous remettez les choses dans leur contexte, effectivement, ce sont donc des gens qui m'ont utilisé alors qu'ils savaient pertinemment quelle était ma situation vis-à-vis d'UBS. Ils ne pouvaient pas ignorer que j'avais déposé plainte. Ils ne pouvaient pas ignorer, et je leur ai dit de toute façon, que j'étais une maman qui élevait mes 2 enfants toute seule et que j'aurais dû être licenciée 2 ans plus tôt et que finalement, je suis la seule à être restée dans cette banque alors que j'aurais dû partir avec un plan social. Et puis, par définition, j'étais tellement terrorisée d'UBS que moi, j'ai fait forcément confiance à des fonctionnaires français assermentés. Je veux dire, moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé des impôts toute ma vie. Je ne peux pas lutter à la fois contre la fraude et contre UBS sans leur faire confiance. Et là, une fois de plus, j'ai fait une erreur d'appréciation dramatique. C'est-à-dire que moi, chez UBS, j'avais fait confiance aux élus. Et tous les élus de l'entreprise se sont gentiment désolidarisés de moi, qu'en gros, ce que je disais à la direction, ça n'a engagé que moi. Très bien, CE, CHSCT, tous les élus compris. Les collègues UBS, courage, fuyons. La direction d'UBS, on n'en parle pas. Moi, j'ai fait confiance à cette inspection du travail qui finalement
vous a planté.
Oui, qui me dit, on est là pour vous protéger, déposer plainte. Moi, je fais un signalement et un procès-verbal auprès du procureur de la République et qui me laisse enfermer dans cette banque. Moi, j'ai les douanes qui arrivent quelque part, c'est alléluia. Alléluia, ça y est, la France, enfin, Bercy, tatatatatata. Et donc, entre-temps, je suis licenciée par UBS, qui a forcément appris, puisqu'elle me suivait mes pieds de partout, que j'étais en relation avec ces gens-là, dont je ne pouvais pas me soustraire. Puisque, comme vous le savez, vous ne pouvez pas vous soustraire.
La loi, on ne peut pas se soustraire à la loi.
Et donc, je me retrouve licenciée. Et puis moi, je pense bêtement que ma vie va reprendre autrement. C'est-à-dire faire une pause et dire, on va passer à autre chose. Et puis, l'affaire est devenue publique. Et là, c'est toujours la même question. Qui a donné mon nom aux douanes et qui a donné mon nom aux médias? Pour que d'un seul coup, il y ait l'affaire UBS qui soit liée à moi et que tous les médias veulent m'entendre sur ce sujet.
On va faire une pause, Stéphanie, et on va revenir là-dessus, justement. Yeah.
approach of the structure of life. Those in our minds and attempted to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit causing tears and fears. What side is stories for years and years and years? I'm inferior, who's inferior? Yeah, they need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. We gotta take the power back. Break it, break it down. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it. Gotta get it, gotta get it. We're running. I'm like a motherfucking running. Expose and close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. Yeah, we gotta take the power back.
Du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM. Nous sommes de retour avec Stéphanie Gibaud, la lanceuse d'alerte de l'affaire UBS, l'Union des banques suisses, et nous allons revenir sur la révélation médiatique de votre dossier UBS. Donc, moi, je suis comme tout le monde, un beau jour, derrière mon écran d'ordinateur, j'apprends qu'il y a une femme qui a eu le courage de dénoncer la fraude à UBS. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dû lui en faire voir ? Et qu'est-ce qu'ils vont lui en faire voir ? Parce que les lanceurs d'alerte, on sait qu'en France, ils ne sont pas protégés, justement. Donc, à votre avis, pourquoi, du jour au lendemain, on a révélé votre identité et on vous a jeté en pâture aux médias ?
Mais ça a été un petit peu tout le travail que j'ai fait ces dernières années, c'est-à-dire d'essayer de détricoter quelque chose qui était bien maillé, bien ficelé. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts à mettre justement un petit peu les gens en pâture comme ça. Parce que quand on se retrouve à être médiatisé, quand on n'a pas été formé à ça, un homme politique par définition est formé à ça, un acteur, un comédien est formé à ça. Quand vous êtes quelqu'un qui a un travail, alors travailler dans la communication et être face à une caméra, ce n'est pas du tout le même métier. Hein.
Non.
C'est éprouvant. Justement, il y a quelques semaines, j'ai pu regarder des premières interviews que j'avais faites, notamment avec Fabrice Arfi de Mediapart, ça date de 2013, ou sur Canal+, et à la même époque. Et quand je vois justement l'émotion... du témoignage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, les années passent et j'ai pris un peu plus d'assurance pour expliquer ce que je dis, parce qu'il y a toujours cette terreur d'avoir une plainte en diffamation.
Oui.
Mon premier livre, justement, a été frappé de diffamation par UBS, qui m'avait déjà traîné au tribunal il y a plus de 10 ans aussi pour diffamation. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit pour ne pas...
On confirme.
Pas... Voilà, c'est une horreur, donc c'est un stress énorme. Je me dis, mais quel a été l'intérêt de ça? Et l'intérêt de ça, eh bien justement, et c'est là où il faut du vécu pour être capable de le comprendre et d'analyser, c'est-à-dire qu'il y a l'intérêt de certains d'écouter ce que vous dites pour savoir comment on peut vous bloquer ou vous manipuler ou se servir de vous pour des intérêts que vous n'imaginez pas. Et qu'en fait, alors si on en parle, on va en avoir pour des heures, mais en gros, c'est un petit peu ce que j'ai découvert. Cela étant, il y a des lanceurs d'alerte qui décident d'aller directement vers les médias. On parlait avant l'émission de Edward Snowden, mais on peut parler d'autres gens. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là du tout. Moi, j'ai fait le choix qui, finalement, est la loi Sapin aujourd'hui. C'est-à-dire l'alerte interne, l'alerte graduée. En plus, j'étais une élue du personnel, donc je vous l'ai dit, je me suis adressée en plus à tous les élus du personnel qui sont censés être là pour défendre l'intérêt à la fois des collaborateurs et de l'entreprise. Je me suis adressée à l'inspection du travail. Il n'y avait absolument aucune raison que mon nom devienne public et associé publiquement à cette affaire.
Tout à fait.
Ça veut dire que certains se sont servis de moi pour un agenda qui les concerne. Alors, le fait de le comprendre... Oui. Alors, ce sera peut-être, on en parlera peut-être au moment du procès plus en détail, parce que c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un de la classe moyenne qui n'a pas du tout accès à ces cercles de pouvoir, on ne peut pas imaginer à quel point ce sont des machines
à broyer les gens.
À broyer les gens et surtout les gens honnêtes. Et ça, c'est. Alors, je vais effectivement, comme on me le dit souvent, faire preuve de naïveté avant ou de pas être au courant ou pas être au fait de comment travaille notre République. Mais c'est assez stupéfiant parce que justement, on est capable d'aller faire des leçons de morale, nous, les Français, à des pays exotiques en matière d'humanisme. Mais quand on voit comment la France traite les citoyens et les citoyens honnêtes, justement, qui aident l'État français, on a quand même après une analyse très différente de comment notre pays est géré.
Mais cette violence inouïe, nous, on la connaît, parce que ça fait un siècle que les anarchistes se battent, on va dire, contre l'oligarchie. Et vous avez été l'otage de cette oligarchie jusqu'au moment, moi je dirais, jusqu'au moment du premier livre. Vous avez réussi à vous défendre et vous êtes encore... Vous êtes encore dans la défense, mais quelque chose me dit que ça va bientôt finir, parce que là, on passe à l'appel. Le plus dur, ça a été d'attendre le premier verdict. Et ça, c'était inespéré. Un tel montant, grâce à vous, c'était inespéré. Vous vous rendez compte le nombre de milliards que vous avez fait rentrer dans le pays, qui vont servir, on l'espère, aux infirmiers, aux infirmières, aux écoles, à faire vivre la République, finalement. Et c'est de l'argent qui va continuer à rentrer. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans la première partie, c'est qu'il y a peu de temps, UBS a été sommé de donner le nom de 45 000 autres clients qui sont liés à vos dossiers.
Oui, ça représente une enveloppe de 12 milliards d'euros.
Voilà.
Donc, en plus des 4,7 milliards qui sont rentrés à la cellule de régularisation à Bercy et en plus des 4,5 milliards de
l'amende
de l'amende de l'année dernière. Alors c'est pour
vous
ça
êtes
qu'en
une,
fait
vous êtes une femme de prix.
Mais oui, mais enfin, vous imaginez le prix justement à payer pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été licenciée en février 2012 et j'ai plus de revenus depuis février 2012. Donc, ça fait 8 ans et demi. Mm. Moi, tout le monde pense que tout va bien pour moi, que j'ai la parole dans les médias, donc que j'ai tapis rouge partout, que j'ai des amis, que tout va bien au niveau des enfants, de la famille, de la santé. Mais attendez, ça m'a coûté tout. C'est-à-dire qu'une fois licenciée, j'ai jamais été capable de retravailler parce que je suis devenue transparente, moi qui avais travaillé 26 ans sans aucun problème. Je me suis retrouvée depuis 2010, donc bien avant d'être licenciée, en justice. Donc là, j'ai encore 4 procès en cours. Mmh. On est en 2020. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est qui est là ? Parce que justement, quand on entend ces grands discours de la protection des lanceurs d'alerte, ces grands discours concernant l'évasion fiscale, mais il faudrait peut-être que les gens soient un petit peu plus précis, c'est-à-dire qu'au-delà des discours, qu'est-ce qu'il y a comme action ? Qui aide vraiment ?
Personne.
Et voilà. En fait, vous vous rendez compte que tout ça, et ça répond à votre question de tout à l'heure de qui aurait pu donner mon nom aux médias, tout ça, ça répond à un agenda de certains qui font en sorte de faire un business là-dessus. Il y a le business, ce que moi j'ai appelé, autant UBS j'ai appelé ça la culture du mensonge, autant là j'appelle ça le business sur le dos des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que certaines associations, avocats, défenseurs des droits, tout ce que vous voulez, sont là en train de prêcher la bonne parole et se précipiter sur les plateaux télé. Mais pour parler ? Parce que concrètement, il n'y a absolument aucune aide, il n'y a absolument aucun soutien. Et au-delà de ça, le dossier que je connais le mieux, c'est forcément le mien. Au-delà de ça, aujourd'hui, finalement, qui est l'ennemi ? UBS fraude, a fraudé, et on sait que c'est une banque, ne serait-ce qu'avec toutes les amendes qu'elle a payées au monde, enfin dans d'autres pays, et ce qui s'est passé ici avec la justice, on sait très bien qu'il n'y a plus de questions à se poser. Mais comment se fait-il que l'État français, qui ose utiliser le droit pour contraindre des citoyens à faire des choses en sa faveur, ne souhaite pas, ne veut pas appliquer la loi pour que justement ces gens-là soient protégés. Moi, j'aurais dû être protégée. Et par définition, là, on n'est plus dans le cadre lanceur d'alerte, on est dans le cadre d'informations qui sont données pour aider une administration, que ce soit Bercy et la justice. Il y a des lois qui disent que on doit rémunérer, rétribuer les gens qui travaillent pour les administrations. Sauf que pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le faire dans mon cas ?
Bonne question. Pourquoi ne veulent-ils pas le faire,
Stéphanie ? Eh bien, parce qu'il y a des verrous, des gens, des hauts fonctionnaires dont on ne connaît ni le nom ni le visage, parce que contrairement à moi, ce ne sont pas des gens exposés, qui travaillent dans l'ombre auprès des ministres et qui décident que sur telle personne, on ne va pas appliquer la loi. Et que ça s'arrête là, parce que derrière, il y a une non-connaissance des sujets, hein, de la part des citoyens, déjà. Et puis, de l'autre côté, il y a une impunité. C'est-à-dire que ces gens qui, depuis 10 ans, sur mon dossier, disent « on ne veut rien faire », qui peut les mettre en danger ? À qui est-ce qu'ils ont des comptes à rendre ? À personne.
C'est ce que a bien expliqué Laurent Mondouy dans La Caste, son livre « À la découverte ». Il y a l'inspection des finances.
Voilà, l'IGF,
oui. Oui, l'IGF. On en parlait justement avant de rentrer dans cette émission. Monsieur Macron en fait partie. Beaucoup de gens qui s'occupent de votre dossier en font partie. Et c'est eux, en fait, la véritable caste qui gère ce pays.
Voilà, et le nouveau président d'UBS qui a été embauché quand j'étais licenciée est un ancien de l'IGF aussi. Voilà. Donc en fait, on est en train de, si vous voulez, de se trouver confronté à une poignée de gens. Hein. Ils ne sont pas très nombreux.
Tout à
mais
fait.
Qui décident que non, on ne veut pas faire. Alors, dans mon dossier, pour terminer ce qu'on disait, comme Michel Sapin, le ministre des Finances qui a donné son nom à la loi Sapin, n'a pas voulu reconnaître que j'étais une lanceuse d'alerte, ses équipes m'ont écrit que je n'étais qu'un témoin qui avait été utilisé dans un dossier. Mmh. Donc un témoin qui est utilisé pendant plus d'un an pour sortir des informations confidentielles d'une banque étrangère. Mais ça veut dire, en gros, on m'a déguisé en agent de renseignement, enfin, excusez-moi du peu. Oui. Mais les agents, a priori, ce sont des gens qu'on protège.
Tout à
ce
fait.
Sont des gens aussi qui sont rétribués pour le travail qu'ils font. Et moi, donc, il y a refus de rétribuer mon travail. J'ai donc attaqué l'État en 2018 et j'ai gagné. Alors, une fois de plus, on peut se dire, alléluia.
3 000 euros.
J'ai été reconnue, effectivement, collaboratrice du service public. 3 000 euros par le tribunal administratif, c'est-à-dire que ça paye à peine des frais. Mais cela étant, aujourd'hui, on a un ministre qui s'appelle M. Darmanin et on en a un autre qui s'appelle M. Le Maire, qui pourraient, eux, m'appliquer cette loi ? Cette loi de rétribution des informations, étant donné le contexte des Gilets jaunes qui étaient dans la rue depuis 2 ans à réclamer plus de justice fiscale et de justice sociale, avec les infirmières qui réclament justement de l'argent, enfin les infirmières et tout le personnel hospitalier, avec nos services publics en berne. Parce que la vraie question, c'est où sont passés ces milliards ? C'est-à-dire tous ceux qui rentrent à Bercy à la cellule de régularisation.
J'allais vous poser la question. Où sont passés ces milliards ?
Et donc souvent, moi je dis aux gens, mais pourquoi vous n'écrivez pas à Bercy pour le demander ? Parce que qui nous donne des comptes là-dessus ? La Cour des comptes ? On vient d'y nommer M. Moscovici qui avait justement enlevé Jersey et les Bermudes de la liste noire des paradis fiscaux. C'est aussi lui qui nous disait quand il était à Bruxelles l'année dernière qu'il n'y avait pas de paradis fiscaux en Europe et vu le tollé, a été obligé de dire oui, enfin, il y a de l'optimisation fiscale. Alors on ne sait plus à la fois si ces gens sont à la fois irresponsables, s'ils sont incompétents. En tout cas, ils sont irrespectueux vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis de l'application des lois. Donc là, pour terminer sur cette histoire, moi j'ai déposé plainte pour abus de faiblesse contre ces fonctionnaires, contre ces enquêteurs des douanes et leur hiérarchie. Et bien, nous allons voir un petit peu comment ça va avancer dans le cadre du procès en appel l'année prochaine.
Oui.
Parce qu'il est très possible qu'UBS dise, mais attendez là,
Madame Gibault,
elle a travaillé
pour l'État français.
Pour l'État français, qui n'a pas respecté le droit. Donc, erreur de procédure, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, soit l'État français va être obligé de se positionner, soit la banque va gagner.
Oui.
Et si la banque gagne, ça risque d'être très compliqué pour la France. Pourquoi ? Parce qu'une partie des informations que j'ai données à cette
sont
justice
parties à l'étranger.
Sont parties pour aider d'autres procédures ailleurs dans le monde. Donc, il y a un véritable problème d'éthique. À la fois au niveau des banques, ça c'est pas la peine de le répéter, je crois que tous les citoyens de n'importe quel pays au monde ont compris qu'il y avait vraiment un problème avec cette finance dérégulée qui se croit au-dessus des lois, mais aussi des pays qui effectivement arrivent à des situations qui sont des situations dramatiques pour des familles, alors qu'on a juste montré l'exemple en termes justement d'éthique, de collaboration avec un pays. Qu'est-ce que c'est que... justement, soutenir son pays, aimer son pays, faire des choses dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tous, ça amène aux minima sociaux. Mais qui est-ce qui a envie derrière d'être éthique après une histoire comme celle-là ? Qui avoir envie d'aider l'État français ?
Personne.
L'État, ce n'est pas eux, ce n'est pas une poignée de gens qui décident. L'État, c'est tout le monde. L'État, c'est nous.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est fiers de vous recevoir, parce que vous nous avez tous aidés.
Oh, mais merci beaucoup. Et je ne peux que vous remercier, parce qu'effectivement, vous voyez, depuis que cette loi Sapin est passée, depuis que j'ai publié mon deuxième livre qui s'appelle « La traque des lanceurs d'alerte », publié par Julian Assange, étonnamment, le silence s'est fait autour de moi. Je suis devenue une deuxième fois la femme à abattre. Je l'étais par UBS et par la finance et par tous ceux qui soutiennent ou qui vivent de la finance. Et là, je l'ai été une deuxième fois, et notamment par tous ceux qui vivent de ce business sur le dos des lanceurs d'alerte, qui ne sont jamais des gens qui proposent des solutions. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, à la fin de chaque chapitre, de proposer des solutions, et aussi d'expliquer qu'être lanceur d'alerte, ce n'est pas juste dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas », c'est aussi aider son pays, c'est aussi aider l'État, et de proposer des solutions pour aller autrement. Parce que souvent, on nous dit « c'est comme ça, on ne peut rien faire ».
Faux.
Mais enfin, faut arrêter. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je ne peux que vous remercier à nouveau de me recevoir parce qu'on m'a coupé la chic de manière... Enfin, on m'a coupé le sifflet. C'est-à-dire que ce sont des violences psychologiques supplémentaires. Vous voyez, ce que m'a fait l'État français, c'était des violences psychologiques supplémentaires à ce que me faisait UBS à l'époque, quand ils m'ont utilisé. Et bien là, c'est d'autres violences psychologiques. C'est-à-dire, d'un côté, on met les gens dans les médias, on les fait parler, on fait verser sa petite larme aux gens avec l'émotion, pauvre femme, etc. Et puis c'est terminé. Et puis le fait de proposer des solutions, circuler,
il n'y a rien à voir.
C'est d'une violence inouïe.
Stéphanie, je ne sais pas quoi vous répondre pour vous... Je suis émue par tout ce que vous me dites. Et je suis d'autant plus fière que mon groupe est sollicité auprès de moi, que je vous rappelle et que je vous fasse revenir et que vous ayez accepté, parce que vous auriez pu refuser après une première émission. Mais vous avez accepté et nous vous en remercions parce que nous sommes très honorés.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie vraiment, mais au-delà de tous ces mots, justement, ce qui est important, ce sont les actes. C'est comme ça que dans l'armée, moi qui étais décorée l'année dernière par l'association des anciens de la Légion d'honneur, c'est comme ça qu'on reconnaît justement les gens qui ont de l'honneur. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et par votre action, le fait de m'inviter, c'est justement quelque chose qui montre qu'on peut faire quand on a envie de faire. Mmh. Voilà. Et que se taire, c'est être complice. Donc ne pas donner la parole aux gens qui ont des choses à dire et des solutions à proposer et qui expliquent justement comment émailler, comment ce sont ce que j'avais appelé dans mon livre « La traque des lanceurs d'alerte », ces mariages incestueux entre la finance et le pouvoir. C'est-à-dire, c'est ce qui est complètement occulté des citoyens qui se demandent effectivement mais comment est-ce qu'on peut être le pays pratiquement le plus imposé au monde. La France, c'est le pays qui taxe le plus et qui n'ait pas d'argent. Comment c'est-il possible qu'on en soit arrivé là ? Vous allez chez les Suisses, qui sont pratiquement taxés autant que nous, ils ont des services publics qui vont bien, il n'y a pas un papier par terre, enfin, la Suisse a su protéger ses intérêts et les intérêts de ses entreprises. Les États-Unis, regardez dans l'histoire avec Birkenfeld, mais dans toutes les histoires dont on peut lire dans la presse économique et financière au quotidien, justement, les montants qui rentrent à l'IRS et la rétribution de ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte aux États-Unis. Mais les États-Unis savent protéger leurs intérêts.
Oui.
En France, on parle. Et puis pour le reste,
circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qu'on va dire.
Le constat est terrifiant. C'est-à-dire que d'un côté, moi je vous avoue aujourd'hui, après 12 ans, où je disais tout à l'heure, mais finalement quel est mon ennemi ? Est-ce que c'est UBS ou est-ce que c'est l'État français ? Mais au-delà de ça, moi qui ai essayé de défendre les intérêts de ce qu'était notre nation, moi aujourd'hui parfois je me dis, mais est-ce que j'ai envie de continuer à être française ? Pour que je sois traitée de la sorte, comme si j'étais un ennemi public numéro un. De la part de l'État, parce que ce n'est pas les citoyens qui me traitent comme ça. Donc il y a vraiment des questions à se poser qui sont fondamentales quant au fonctionnement de notre État.
Bien. Alors Stéphanie, nous allons faire une pause et nous allons revenir en troisième partie. On va décrypter ce qui s'est passé au moment du procès et on va essayer de faire une prospective sur ce qui va se passer à la Cour d'appel au mois de mars 2021.
At Melbourne University sprang that little blonde-headed bugger Julian Assange. Heaven sent to expose the horrible truth hiding behind the zeros and ones in the world, and by giving whistleblowers around the globe a Dropbox to expose the not-so-good, the very bad, and the most ugly. And boom!
Boom!
Boom went Julian. Yeah, boom!
Boom!
Boom went Julian. To the Ecuadorian embassy to avoid the great noose of the global warlords. Egged on by hungry banksters and corrupted politicians, all were scrambling to stay hidden away by telling
big fat lies.
Through a well-controlled mainstream media, they couldn't keep Pandora's box closed because boom!
Boom
went Julian.
Yeah, boom!
Boom went Julian. The same old crap, forced and bitterly unsweetened into our lives with war, poverty, human misery, all created by wannabe masters, brutes, the lot of them. And we're getting a much better idea who they really are. Oh yeah, when boom, when boom goes Julian, yeah, boom, when boom goes Julian, yeah, boom, when boom goes Julian. When boom goes Julian!
with something incredible to work towards. Still peace? Yes, peace. We're banding together, getting ready to go boom!
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Stéphanie Gibaud. Remarquable Stéphanie Gibaud, vraiment. Nous allons revenir sur le procès qui a eu lieu donc, et où, pour la première fois, UBS a eu un problème majeur. 4,5 milliards. Je veux dire, est-ce que vous aviez envisagé que l'amende puisse être aussi élevée ? Même dans vos rêves les plus fous.
Je savais que l'amende allait être élevée, mais comme par définition, le jour où ça a eu lieu, je n'avais pas lu le contenu du jugement, je l'ai lu qu'après.
Oui.
J'ai compris pourquoi il avait été si élevé, et notamment à la fin des 150 pages de ce jugement, la juge a basé l'amende sur les 4,7 milliards qui sont rentrés à la cellule de régularisation à Bercy au 31 décembre 2017.
Voilà.
Donc, ce n'est pas du hasard.
C'est
ça veut bien dire
c'est vous.
Qu'il y a un travail qui a été fait. Alors, moi, en partie, j'ai contribué à ça, bien évidemment, avec les un peu plus d'un an où j'ai travaillé avec l'État, avec ses fonctionnaires. Mais effectivement, c'est un travail de gens qui savent très bien ce qu'ils ont fait, les enquêteurs, les gens qui ont déposé. Bien évidemment, des banquiers ont été interrogés par la justice, par le juge, des banquiers français et des banquiers suisses. Et même le fameux Birkenfeld est venu deux fois rencontrer le juge Daïef, ce qui n'a pas été mon cas d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais été convoquée par la justice dans ce dossier des 4,5 milliards. Donc peut-être, la question à se poser, c'est peut-être je serai appelée au mois de mars l'année prochaine pour l'appel.
Oui, moi je pense que vous le serez parce que vous êtes le témoin clé, si je puis me permettre. Vous êtes le témoin clé. Je veux dire, tout s'est fait autour de vous.
Mais si vous voulez, ce qui est complètement fou, c'est que l'État français s'enrichit, s'est enrichi à mes dépens. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces informations... Bon, et d'autres informations, mais en tout cas avec celles que je leur ai fournies, ils ont été capables de condamner la banque. Donc eux, l'État s'est enrichi. D'ailleurs, les 800 millions d'euros de dommages et intérêts ont été actés dans le jugement. Et donc l'État, qui contraint les citoyens par le droit, s'enrichit et en revanche appauvrit les citoyens qui les ont aidés, qui ont fait preuve d'éthique, de volonté, d'intégrité, enfin vous pouvez le décliner comme vous voulez, pour avoir justement répondu aux sollicitations et avoir voulu aider l'État. On marche sur la tête.
Alors revenons à ce qui s'est passé pendant le procès. Donc il y avait donc la crème des avocats, Maître Jean Veil en tête, qui a plaidé la relaxe. Alors, je veux dire, nous qui connaissons quand même le dossier, on s'est dit plaider la relaxe. Vraiment, il est tombé sur la tête. Vu déjà l'amende record, la caution record, je veux dire, plaider la relaxe, c'était aller vraiment... Alors, en plus, il dit, il est difficile de défendre UBS, les Français détestent les banques. Enfin, je veux dire, Madame May, c'est son nom, hein, la présidente du tribunal, elle a dû rigoler, je veux dire.
Mais si vous voulez, c'est du théâtre, tout ça.
Oui, mais c'est du théâtre à votre détriment, Stéphanie.
Ah ben, on est complètement d'accord. C'est pas moi qui vais aller vous dire qu'ils ont raison. Ils sont payés très très cher pour aller faire cette pièce de théâtre et pour défendre les intérêts très juteux des banques les plus importantes et puis qui fonctionnent le mieux au monde. Quand j'étais allée au Prud'homme il y a bien longtemps, ça devait être en 2015, et que j'avais gagné contre UBS, la plaidoirie de l'avocat d'UBS au Prud'homme avait été de dire... Mais n'inversez pas les rôles, c'est nous qui sommes harcelés par cette femme depuis 5 ans ou depuis 7 ans. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui assassinent. Vous voyez, c'est fait pour détruire psychologiquement. Ça fait partie de ces schémas. Voilà, la culture de la peur en entreprise, et bien la culture à la fois du déni, la culture du mensonge, le montrer que, vous voyez, vulgairement, on dit il y a des torchons et des serviettes. Mmh. Bah, c'est un peu ça. C'est qui êtes-vous pour oser aller
Vous opposez à nous.
Vous opposez à nous. Nous, on est riches et puissants. On est riche, donc on est puissant, donc on est riche, vous n'êtes rien. Et puis c'est surtout pour donner un signe par rapport à ceux qui pourraient justement prendre des décisions dans l'État, de collaborer avec l'État, dans le cadre d'une démarche éthique pour être en accord avec sa conscience. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens chez UBS qui se taisent depuis des années, mais moi je me demande comment ils dorment ces gens-là. Doivent être confrontés à leur confiance, à leur conscience quand même. Ce sont des gens qui élèvent des enfants aussi. Mm-hmm. Ce sont des gens qui sont des pères de famille, des mères de famille.
Qui vous ont laissé tomber. Ils ne doivent pas être très fiers.
Au-delà de ça, il y a même des gens qui ont écrit des attestations contre moi.
Ah bon ?
Ah ben oui. Ah ben oui, même des élus. Enfin, tout est possible dans ce monde des humains qui, pour de l'argent, se taisent. Ou pour des promotions, ou pour... Vous savez, il y a beaucoup de compromissions. C'est ça, en fait. C'est moi, c'est tout ce que j'ai découvert, c'est à l'opposé de qui je suis. Alors, vous allez me dire, mais je devais vraiment être naïve et idiote. Mais moi, je n'ai jamais travaillé en faisant des compromissions ou en me taisant. Donc là, effectivement, le silence est très choquant, parce qu'on voit bien qu'à la clé, il y a des pressions extraordinaires. Mais que... Vu l'exemple qui est montré par la France dans mon dossier, hein, donc là on peut parler de Bercy et du ministère des Finances, personne n'a envie d'être éthique. Moi je pense que si demain les choses s'inversaient, bien évidemment d'un coup ça donnerait une impulsion.
Oui.
Et que ça redorerait le blason de notre pays qui malheureusement...
On a besoin.
oui, on a bien besoin. Voilà, tout à l'heure on parlait de Julian Assange, mais quand on voit l'absence... de soutien
pour Snowden.
Pour Snowden et pour Assange depuis des années, alors qu'ils avaient demandé à être accueillis
en France,
qui protège, comme vous le savez, des gens qui sont persécutés dans leur pays. L'asile politique a été donné à France à beaucoup de gens qui ont été reconnus par leur travail, etc. Eh bien, en fait, maintenant, on est dans une espèce de laisser-aller, laisser-couler, où on préfère protéger des dictateurs et les accueillir sur notre territoire, comme ça a été le cas avec Duvalier, Baby Doc, pendant 25 ans, plutôt qu'avoir la grandeur de se dire quelqu'un comme Assange, qui a aidé notre pays, puisque, avec les informations qui venaient aussi de Snowden, on sait que les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande ont été écoutés par la NSA, donc un pays qui n'est pas le nôtre, oui. Et que par définition on peut s'entendre très bien et avoir des alliés, mais les pays ne sont pas forcément nos amis.
Non.
La moindre des choses, c'était de faire preuve d'humanité. De quoi la France fait preuve en finalement jouant l'autruche ? Dans le dossier Assange et le dossier Snowden. C'est terrible pour notre réputation, justement, de pays qui se dit pays des droits de l'homme.
Alors, revenons à la Suisse. Moi, j'ai regardé la presse suisse avant de préparer cette émission. Pour la deuxième fois dans son histoire, UBS, on a refusé la décharge aux dirigeants d'UBS à cause de vous, à cause du procès, donc. La précédente, c'était Marcel Ospel. Ospel, oui, voilà, excusez-moi, pour la débâcle de 2008. Donc là, non seulement ils ont refusé la décharge, mais ils ont obligé à augmenter les provisions de la banque. Ce qui fait qu'elle n'avait plus que 4,5 milliards de bénéfices contre 4,9 milliards annoncés à l'époque, en 2019. Bon, on voit qu'on est dans le milliard. Je veux dire, pour vous et moi qui luttons pour les 20 euros à la fin du mois, on passe notre tour.
Non, mais c'est pour ça, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que les caisses sont vides, que vous comprenez, enfin, qu'on met autant de pression sur à la fois les contribuables et qu'on fait culpabiliser les gens, et c'est pour ça qu'on réduit l'APL, par exemple, hein, pour donner un exemple parmi tant d'autres. C'est quand même, je vais être très vulgaire, mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde.
On est d'accord
mais
avec
c'est,
vous.
Mais c'est une violence sociale, psychologique énorme.
En Suisse, comment vous êtes perçue, Stéphanie ? Est-ce que vous avez est-ce qu'on vous a dit quelle est l'image que vous avez, qu'on a de vous ? Parce que j'ai vu deux articles sur vous, dans Le Temps et dans la Tribune de Genève. Est-ce que vous avez une idée de comment on vous perçoit en Suisse ?
Alors, je pense qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase jusqu'à pratiquement le procès, c'est-à-dire 2000, on est en 2020, donc il y a jusqu'à il y a 18 mois. C'est-à-dire Vous voyez, avec l'image de Birkenfeld, justement, voilà. Qui est quelqu'un qui prend des documents, qui est quelqu'un qui les vole, finalement, il faut quand même être très clair, et qui, en plus, s'enrichit.
Alors, pour les Suisses, c'est vraiment le traître absolu.
Oui, et puis derrière, on pourrait se demander quelle est la solidarité en tant que lanceur d'alerte. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2014, vous voyez, ça fait 6 ans et demi, où justement, il devait monter une fondation avec un pied à Washington, un pied à Paris, et que justement, ça m'aurait permis d'avoir des revenus, etc., etc., pour
voilà, laissez courir.
Tout ça, il faut oublier. C'est-à-dire que justement, ce que j'étais capable de décrypter depuis des années, et je pense que très très peu l'ont fait, c'est de savoir qui est lanceur d'alerte et qui est un faux lanceur d'alerte. Mmh. C'est-à-dire que justement, on a mis là, de manière médiatique, la confusion dans l'esprit de tout le monde.
Oui.
Parce que c'est très particulier. Mais un lanceur d'alerte, c'est avant tout quelqu'un qui aime son entreprise et qui aime son métier. Voilà. Pourquoi est-ce que vous allez avoir une volonté de couler votre employeur ?
Jamais.
Personne.
On n'est pas schizophrène à ce point-là.
Votre employeur, c'est lui qui vous permet d'avoir un logement, d'avoir une famille, d'avoir des projets, d'avoir des vacances et d'avoir une vie sociale. Mmh. À partir du moment où, comme moi, vous êtes supprimé de tout, forcément, vous n'êtes plus personne. Donc, on peut quand même se demander, moi, j'ai toujours dit, chez UBS, j'ai essayé de comprendre un certain nombre de choses et surtout, j'ai jamais voulu être complice ou j'ai jamais voulu être coupable. Parce que j'avais qu'une peur, c'était qu'on me prenne un matin à 6h avec les menottes devant mes enfants en bas âge, en pyjama dans l'appartement. J'ai toujours dit, mais j'ai jamais voulu être complice de ça. C'est pas tout à fait la même chose. Aller vouloir mettre de l'éthique en interne, et je répète, mon alerte était en interne, graduée. Donc si les dirigeants avaient voulu mettre de l'éthique, ils m'auraient dit, Stéphanie, merci beaucoup, on remédie au problème, vous retournez à votre place. À l'inverse, c'est de l'isolement, de l'oppression, de la dégradation, bon, forcément plus d'augmentation de salaire, plus de bonus, enfin vous oubliez tout ça. C'est du discrédit, c'est une espèce de rouleau compresseur. Ben, et face à vous, avec vos petits points et la vérité, forcément, le rapport de force, il est quand même disproportionné. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que je vous raconte sur Birkenfeld. Mmh. Donc comment j'ai été perçue en Suisse ? Je pense qu'en Suisse, il y a eu tellement ce choc que justement, face à UBS, qui est quand même le plus gros employeur suisse. Hein,
exact. Et c'est un pays qui tient par les banques. Parce que les élus travaillent le matin dans les banques et l'après-midi, ils peuvent être bénévoles dans les instances politiques.
Ah, mais c'est tout
donc,
à fait ça.
Un mariage, on n'imagine pas à quel point les banques tiennent la Suisse. Mais c'est ça. Donc, vous apparaît votre dossier dans la presse suisse.
Donc, je pense qu'au début, et je me souviens très bien des premières interviews de la presse suisse qui n'étaient pas tendres avec moi. Et je me souviens de certaines stars de la télévision suisse, je ne vais pas citer leur nom, mais qui ont depuis, étonnamment, mais vraiment, c'est passé du noir au blanc. D'un côté de la pièce, ont vraiment compris l'intérêt de celles et ceux qui parlent d'éthique en entreprise et qui veulent changer les mauvaises pratiques. Parce qu'une entreprise qui a de mauvaises pratiques, par définition, elle a une réputation
désastreuse.
Si elle est cotée, elle perd immédiatement X points.
Ça a été le cas de UBS, parce que le jugement a eu lieu. Elle a perdu 5 points.
Donc elle licencie.
Voilà.
Donc ça crée de la précarité. Donc ça crée quoi ?
Des problèmes.
C'est-à-dire une culture de la peur en entreprise. Et les gens ne vont pas en entreprise pour être terrorisés.
Non.
On a vu avec France Télécom, Orange, que ça a donné en France avec les suicides.
Et Maître Janvay était l'avocat de France Télécom.
On retrouve toujours les mêmes aux mêmes endroits. Donc, je suis un peu désolée d'être aussi directe, mais en gros, prenez ma vie, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'on voit que tout est orchestré.
C'est pour ça qu'on vous a invité, c'est pour que les gens comprennent justement ce qu'on vous a fait et ce qu'on nous fait au quotidien.
Et je pense que comme j'ai traduit la traque des lanceurs d'alerte en anglais, préfacée par Assange, c'est vrai que le monde anglo-saxon, ou en tout cas les étrangers qui parlent anglais, ont pu se rendre compte de ce que c'était que cette violence que finalement infligée en France à une collaboratrice qui a juste aidé l'État français. Parce que si on réduit ça, UBS fraude, d'accord, la France lutte contre la fraude et protège les lanceurs d'alerte. Moi, je suis à la fois pas considéré comme lanceur d'alerte. Et puis, à chaque fois, on me dit, vous êtes un témoin dans un dossier. Mais j'ai gagné tous mes procès jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Je n'ai jamais perdu un de mes procès, ni face à l'État, ni face à UBS. Donc, aujourd'hui, on a deux côtés d'une pièce qui sont finalement pas beaucoup plus propres l'un que l'autre. ben, y a moi au milieu. Je suis un peu l'espèce de, je ne sais pas comment vous expliquer, de pierre angulaire, d'avoir obéi à l'État qui refuse de m'appliquer la loi, d'avoir travaillé chez UBS et de connaître, d'avoir travaillé pendant 10 ans et d'y connaître très très bien à la fois les gens, c'est-à-dire les collaborateurs, mais aussi les clients.
Oui.
Qu'on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit quant à ma conduite, puisque, je vous le répète, j'ai fait une alerte en interne, des alertes en interne. Je n'ai pas participé à... c'est pas moi qui suis allée vers les médias en amenant des tonnes de choses, c'est les médias qui sont venus vers moi. Donc, la perception du lancement d'alerte et la perception du travail que j'ai fait, ayant gagné contre l'État tous mes procès et ayant gagné contre UBS, là, il y a eu effectivement un questionnement, se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, la France, pays des droits de l'homme, enfin avec tout ce que vous connaissez, il y a quand même un sérieux problème. Donc cette femme doit dire la vérité.
Oui.
Je pense qu'il y a des gens qui m'observent depuis des années et qui se disent qu'effectivement ce que je dis est très cohérent et je n'ai jamais changé une virgule dans ce que j'ai dit. Quand je dis je n'ai jamais été auditée chez UBS, c'est clair. Je n'ai jamais été auditée avant mes alertes, je n'ai jamais été auditée après. Pourquoi ? Moi, je pose des questions. Je ne demande pas forcément à ce que vous trouviez tous des réponses. Mais il y a des vraies questions. J'ai sollicité les élus en interne. Pourquoi les élus n'ont pas voulu être solidaires ? Quand on est élu en entreprise, vous savez, on est soi-disant salarié protégé. Vous avez vu ce que ça m'a apporté. Pourquoi est-ce que certains élus ont même fait des attestations contre moi ? Pourquoi, alors qu'on peut demander une audite externe quand on est au CE, parce qu'il y a des budgets pour ça, tout le CE a refusé ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? D'avoir. Alors, il peut y avoir beaucoup de réponses, hein. il n'y a pas qu'une seule. L'être humain est compliqué, avec la peur d'être licencié, avec la peur d'avoir un blâme, avec la peur d'avoir une carrière qui s'arrête comme la mienne. Je comprends. Mais en même temps, c'est cette phrase de Saint-Exupéry que j'avais citée quand j'ai fait un talk TEDx. Être homme, c'est être responsable. Mmh. On est tous adultes, on est tous face à nos responsabilités individuelles et collectives. Moi, individuelle, c'est sûr. Je l'ai pris et j'ai pris très très cher. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est l'éthique. L'éthique dans la justice, l'éthique en politique, l'éthique dans le milieu bancaire, l'éthique dans les relations professionnelles, l'éthique entre chacun de nous, l'éthique des journalistes, on peut aussi en parler parce que j'ai tout un chapitre lié à ça suite à l'affaire Assange. Et qu'en fait, ce mot est complètement galvaudé. On se rend compte qu'en fait, on est le pays où on parle, donc on est capable d'utiliser les mots. Même si on est le pire des escrocs, on va parler d'éthique. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Sauf qu'à un moment donné, il y a des faits, des gestes. Voilà.
Irréfutables.
Il y a un détournement, si vous voulez, des choses. Et je pense qu'on va arriver avec ce procès UBS à la fin de quelque chose.
Oui.
Pour toutes les raisons qu'on a expliquées là. C'est-à-dire que les gens risquent d'entendre d'ici là d'autres problèmes.
Oui.
Hein, en Europe, le contexte montre qu'il y a au moins 3 banques systémiques, au moins 3.
On ne va pas les citer pour ne pas avoir de procès.
Pour avoir de problème, on en a assez comme ça. Mais que là, ça va certainement créer un nouveau
séisme.
Voilà, et une nouvelle prise de conscience. Et parce certainement que ce sont des types de violences.
Too big to fail, comme HSBC à une époque, qui avait le problème de la drogue et qui blanchissait l'argent des narcos. Et on aurait pu la mettre en faillite. Et ça n'a pas été le cas.
Voilà, et comme UBS, ce sont des banques auxquelles... on ne peut pas toucher quelque part parce qu'elles sont plus puissantes que les États. C'est dramatique. Dramatique. Mais cela étant, donc il va peut-être se passer ça d'ici 6-8 mois. Qui dit qu'il n'y aura peut-être pas des révélations sur des comptes offshore ou je ne sais quoi ?
Oui, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. On attend tous la prochaine révélation, la prochaine vague. Et on attend surtout que UBS soit démasqué totalement. Là, vous l'avez démasqué très largement, mais il reste encore des zones d'ombre, et c'est ce qu'on attend. Et la cour d'appel, on espère que ça arrivera avant la cour d'appel, pour vous, Stéphanie, pour que vous gagniez enfin. Parce que ce que vous ne dites pas, par pudeur, c'est que vous auriez dû avoir un pourcentage sur les sommes qui sont rentrées, et ça vous aurait permis de vous occuper un peu mieux de vos enfants et de vous-même. Et ça, ça ne vous est pas appliqué.
Ah, bah, c'est-à-dire que quand je dis que j'ai tout perdu, mais effectivement, quand vous êtes une femme seule qui élève 2 enfants, si votre carrière s'arrête et que vous n'avez plus de revenus, qui est le seul rentrée financière du mois, bah, à un moment donné, vous n'êtes plus capable de payer votre appartement, donc vous perdez la garde de vos enfants, et donc par définition, les quelques amis que vous aviez, vous les perdez aussi. Par définition, comme vous n'avez plus de projet professionnel et que vous n'avez plus non plus de contact professionnel, et puis que tout s'arrête comme ça. Et effectivement, moi je le dis souvent, je ne devrais plus être là. Ou si j'étais là, je devrais peut-être être alcoolique ou dépressive ou en hôpital psychiatrique ou très entamée. C'est vrai que souvent on me dit, mais comment est-ce que vous faites pour tenir debout? Oui, vous êtes très forte. Bah, peut-être parce que je sais que je dis la vérité, je sais que qui je suis.
Et puis il y a les enfants qui vous...
Peut-être, oui. C'est très compliqué parce que j'ai eu un de mes fils qui n'est pas allé très très bien pendant très très longtemps. Où tous les ans, je disais aux anniversaires ou à Noël, mais l'année prochaine, c'est terminé. Et puis vous voyez, après 12 anniversaires, 12 années d'anniversaires qui n'existent plus et 12 années de Noël qui n'existent plus. Mais quand je vous dis Noël et les anniversaires, c'est aussi les vacances, c'est aussi tout le reste. Les amis et la famille, enfin tout est en berne. Bah, à un moment donné, c'est vrai que...
Il craque.
Tout le monde craque. C'est-à-dire, comment vous faites quand vous vivez sans revenus? Moi, j'ai jamais personne qui me dit, mais comment vous faites? Bah, comment vous faites? Ne serait-ce que pour essayer de garder un peu de dignité et d'honneur. Parce que c'est surtout ça qu'on a voulu m'enlever. Mmh. Et qu'un être humain, quel qu'il soit, un homme, une femme, français, pas français, la dignité et l'honneur, c'est ce qui, a priori, devrait tous nous réunir. L'humanité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté se dire humaniste et être dans certains types de combats, et de l'autre fermer les yeux sur des histoires comme celle-là. Parce que mon histoire, au-delà d'être très triste pour moi et de jamais s'effacer, vous ne pouvez pas effacer 13 ans de votre vie, puis on ne sait pas comment ça va terminer non plus cette histoire et quand ça va terminer.
Positivement, ne vous inquiétez pas.
Écoutez, si vous le dites, je veux bien vous croire, mais il faut aussi être très factuel, c'est-à-dire de voir quels sont les intérêts, parce que là, il y a des intérêts stratégiques qui dépassent justement celui des citoyens. C'est l'intérêt de notre État, notre position, la France. Comme vous savez, on est pays fondateur de l'Europe. On a la parole qui est celle de l'humanisme, alors qu'on sait que tout ça, ça a été galvaudé. On a parlé d'Assange et de Snowden, on ne va pas le répéter. On voit ce qui est fait à des gens comme moi, sur la liberté d'expression, sur les médias indépendants. Enfin, on voit beaucoup de choses qui sont à l'inverse de ce qu'est l'humanisme et la liberté de s'exprimer, qui sont au cœur de notre Constitution. Donc, je pense que les choses évolueront avec un réveil citoyen. Tout à l'heure, je vous disais, mais pourquoi est-ce que les citoyens, les associations, je ne sais qui, ne demandent pas des comptes où est cet argent qui est rentré du BS? Est-ce que justement, il a servi aux infirmières? Est-ce qu'il sert aux professeurs dans les écoles? Est-ce qu'il sert à l'armée? Est-ce qu'il sert à la police? Si on parle de la police en ce moment. Oui, vous avez raison de rire, parce que...
Oui,
Coluche nous manque énormément. C'est-à-dire que je pense que là, sur un dossier comme le mien, il aurait beaucoup, beaucoup à écrire
et à dire.
Et à dire, si vous voulez, c'est l'absurde. Oui. On est en absurdie.
Exact.
Et ce serait drôle à rire aux larmes si ce n'était pas aussi dramatique, parce que derrière les violences, justement, la violence sociale que ça engendre, ce n'est pas de la violence avec des armes et dans des bains de sang, c'est de la violence sociale, c'est de la paupérisation, c'est de l'appauvrissement. C'est très triste au final.
Bon, Stéphanie, nous vous remercions. Alors, j'annonce à mes auditeurs que vous reviendrez, vous avez accepté de revenir pour l'appel au mois de mars 2021.
Avec plaisir.
Donc, on reprendra le dossier à ce moment-là. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je laisse le mois si adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le chiffre de l'humain. La race, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La race, je vous fais serment, on voit le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La race, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve.